France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est en prison, incarcéré ce matin à la Santé à Paris, une première dans l'histoire de la République pour un ex-chef d'État. Il y restera au moins 3 semaines, nous disent ses avocats dans un instant. Le récit de cette matinée, les soutiens de l'ancien président et le rappel à l'ordre du premier procureur de France. À suivre encore le témoignage bouleversant de Dolores, une femme qui a échappé à une double tentative de meurtre de son ex-compagnon. Il venait d'être condamné pour violence. Ces images de racisme décomplexé dans l'Aube. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour.
Soirée dans un club de parachutisme.
Au milieu des costumes de super-héros, 5 personnes en robe et capuchon pointu blanc façon Ku Klux Klan, 3 en blackface. Image glaçante qui a tout de suite fait réagir la Fédération Française de Parachutisme.
Vos précisions dans un instant. Nous retournerons aussi à Hermont, au nord-est de Paris. Commune dévastée hier par le passage d'une tornade. Et puis nous parlerons de cet exploit dans l'Himalaya. Bonjour Noureddine Zidane.
Bonjour Jérôme.
Signé de 2 Français.
Benjamin Védrine et Nicolas Jean qui ont dompté le Janu-Est dans l'Est du Népal sans assistance respiratoire et sans corde fixe.
A tout de suite. À partir de 13h30, toutes vos questions sur le projet de budget du gouvernement. Il est examiné depuis hier en commission à l'Assemblée. 30 milliards d'euros d'efforts. Ménages, entreprises, retraités, qui va payer? L'économiste Anne-Sophie Alsif va nous éclairer. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h50, c'est la France. Les banderoles pour recruter des médecins, ça marche, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Suite de notre semaine spéciale Barbara, nous serons avec le chorégraphe Philippe Lafeuille. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Que lentement passent les heures, comme passe un enterrement. Les mots de Guillaume Apollinaire, 1911, pour décrire son court séjour à la prison de la Santé. Apollinaire accusé à l'époque de complicité dans une affaire de vol au musée du Louvre. La liste des détenus célèbres à la Santé s'est allongée ce matin. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Quant à 9h37 précise, Nicolas Sarkozy est entré en voiture dans l'enceinte.
Une exception très rare accordée par l'administration pénitentiaire vu le statut de ce nouveau détenu. L'ancien chef de l'État caché derrière les vitres teintées de ce monospace noir a passé les grands murs en pierre de la prison de la Santé. Arrivé commenté en direct par des journalistes venus du monde entier, sous le regard curieux des voisins sur leur balcon, dans la rue aussi, un public agglutiné contre les grilles du dispositif policier comme Christine et Emmanuel.
Le premier sentiment, c'est plutôt de la honte en fait, parce que ça va être diffusé partout dans le monde, donc un ancien président de la République française qui va en prison. La justice est passée et je suis choquée par les réactions de soutien. Pour moi, je pense que c'est un moment historique, effectivement, il y a quand même une rupture de confiance avec la classe politique.
Une justice encore une fois pointée du doigt par les avocats de Nicolas Sarkozy. Ils ont accompagné leurs clients dans l'enceinte de la prison avant de ressortir devant la nuée de journalistes. Maître Christophe Ingrin dénonce une nouvelle fois cette décision judiciaire et annonce avoir déposé une demande de remise en liberté.
Un moment qui est très dur. Mais le président a fait face, il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. Et notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible.
Nicolas Sarkozy est donc derrière les barreaux et va devoir vivre, dormir dans sa cellule de 9 mètres carrés pendant probablement une période de 3 semaines à 1 mois. C'est le temps de traitement moyen d'une demande de remise en liberté.
Récit signé Mathieu Bonnour. Avant cette arrivée, 50 d'agents pénitentiaires ont manifesté pour dénoncer, je cite, une incarcération médiatique en pleine crise pénitentiaire. Le taux d'occupation de cette prison de la Santé est de 188%. Mais l'ancien président de la République est donc seul dans sa cellule. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Que sait-on de ses premières heures de détenu?
Eh bien juste que Nicolas Sarkozy a bien rejoint sa cellule peu avant midi dans le quartier d'isolement. C'est tout ce qu'un délégué syndical que j'ai joint a pu savoir. L'intimité de l'ancien chef de l'État est bien protégée par les agents et le directeur de la Santé qui l'ont accueilli ce matin. Les formalités semblent avoir été rapides. La photo devant la toise avec le numéro d'écrou. On ne sait pas si Nicolas Sarkozy a pu éviter la fouille intérieure intégrale que subissent les arrivants. Ses avocats ont dit ce matin qu'il avait pu prendre des affaires chaudes, de quoi écrire et des boules-quies pour se protéger du bruit, des cris des détenus qui savent, parce qu'ils regardent les chaînes d'information, qui est depuis ce matin leur voisin de cellule. Ils ne doivent jamais le croiser. Le personnel de la santé sait que sa protection est un gros enjeu.
Puis viendra la première nuit et tous ceux qui ont déjà dormi en prison s'en souviennent, particulièrement les personnalités médiatiques. Ainsi, l'ancien commissaire Michel Néret, incarcéré à la santé après sa condamnation en 2018 pour corruption et association de malfaiteurs.
Évidemment, on se souvient de tous les détails, surtout l'accueil personnalisé des détenus qui savaient que j'avais été incarcéré à la santé. Et toute la nuit, les détenus se sont livrés à scander mon nom de manière assez inélégante. C'est sans doute l'accueil que va recevoir M. Sarkozy. Je pense que les détenus ne vont pas oublier les propos qu'il a tenus en tant que chef d'État lorsqu'il parlait de la racaille incarcérisée.
Michel Néret au téléphone d'Yvan Planteil. Avant son incarcération ce matin, l'ancien chef de l'État a publié un message sur les réseaux sociaux, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. Fin de citation. Nicolas Sarkozy qui a aussi reçu le soutien ce matin d'une centaine de fidèles. C'était avant son départ, devant son domicile parisien, là encore, devant micros et caméras, avec dans l'Assemblée quelques personnalités politiques. Reportage Julien Nenny.
Certains patientaient depuis plus de 3 heures, quand soudain, tout au bout d'une allée pavée, Nicolas Sarkozy apparaît, l'air grave en sortant de chez lui, Carla Bruni à ses côtés, l'ex-président prend quelques instants pour saluer la foule compacte et ses proches, nombreux à l'attendre là, près de sa voiture qui doit l'emmener en prison. On aperçoit ses enfants, dont Louis Sarkozy à l'origine de ce rassemblement, mais aussi de vieux compagnons de route comme le sénateur LR Roger Karoutchi.
J'ai été son ministre, moi je sais bien que c'est plus la mode, la fidélité, la loyauté, tout ça c'est des valeurs d'avant. Eh bien, c'est des valeurs que je partage quand même encore aujourd'hui.
Ceci dit, aucun ténor du parti n'a fait le déplacement, pas de Bruno Retailleau ni de Laurent Wauquiez. Plus bas dans la rue, des centaines d'anonymes, parmi eux, Arnaud et Marie-Pierre, avec un message « Honte à la justice ».
C'est un scandale. En tant qu'avocat, j'ai mal à la justice. C'est absolument inadmissible. Un justiciable lambda ne serait pas allé en prison aujourd'hui.
Nicolas Sarkozy ne présente pas un danger pour la société, d'accord ? Il n'y a pas de risque de fuite ? Pourquoi elle le met ? Pour pouvoir se vanter de dire « j'ai eu la tête de Sarko ». C'est de la vengeance, c'est tout. C'est pas de la justice.
Au milieu de cette colère, quelques rares voix dissidentes se font entendre, comme ce riverain malicieux qui, depuis son balcon, fait retentir un morceau du chanteur préféré de Nicolas Sarkozy, Johnny Hallyday, le pénitencier.
Julien Nenny pour ce reportage. Alors rappelons que cette incarcération est la conséquence de la mesure d'exécution provisoire décidée par les juges après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2007. Une mesure sur laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui en Slovénie, s'est exprimé ce matin.
Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques.
Les mots d'Emmanuel Macron, hier ici même sur France Inter, il y avait eu les mots du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui annonçait qu'il rendrait visite à la prison de la santé, à Nicolas Sarkozy, et cette prise de parole continue de faire réagir les magistrats. Sarah Guibaudot, on vous retrouve, à commencer par le premier d'entre eux, le plus haut procureur de France, qui juge bon aujourd'hui de s'exprimer.
Oui, Rémi Hetz, le procureur général de la Cour de cassation, estime que la justice doit pouvoir travailler dans la sérénité, en particulier les juges de la Cour d'appel de Paris qui se pencheront dans les 3 semaines, 1 mois sur la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy ou sur son procès en appel l'année prochaine.
Il y a un risque qu'une telle visite soit ressenti par les magistrats, et c'est important, soit perçu par l'opinion comme une forme d'obstacle finalement à cette sérénité recherchée. Il faut véritablement préserver de toute influence l'intervention des magistrats dans un dossier aussi sensible.
Rémi Hetz, chez nos confrères de France Info, à qui le ministre Gérald Darmanin a répondu d'un tweet, s'assurer de la sécurité d'un ancien président de la République en prison n'atteint en rien à l'indépendance des magistrats, mais relève du devoir de vigilance du chef d'administration que je suis.
Explication Sarah Guibaudot. C'est un témoignage rare. Il y a 2 mois, Dolores, 68 ans, habitante du Calvados, marche sur un trottoir, commune de Falaise, quand elle est renversée par une voiture. Au volant, son ex-compagnon qui vient d'être condamné pour violence à 18 mois de prison, mais qui a été laissé libre avec un bracelet électronique et l'interdiction d'entrer en contact avec elle. Dolores est gravement blessée, fracture multiple, 2 mois clouée au lit, puis le fauteuil roulant depuis ce week-end. Elle est encore à l'hôpital, encore très faible, mais elle tient à raconter son histoire. Elle a le sentiment de ne pas avoir été protégée par la justice.
Jusque cet accident-là, j'ai été persécutée tous les jours. On est allé à chaque fois à la gendarmerie et il n'y a rien eu de plus en réalité. Ce qu'ils ont donné, les 18 mois, les 12 mois et puis les 6 mois de bracelet, ça ne servait à rien.
Aujourd'hui, vous êtes là, vous vous considérez comme une survivante, on peut le dire.
Bah oui, c'est ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Donc oui, je ne suis pas morte, mais après, il faut pouvoir se reconstruire quand même.
Mais pourtant, vous prenez la parole parce qu'il y a urgence ?
Bien sûr qu'il y a urgence. Bougez les choses, faites ce qu'il faut pour que les femmes ne soient plus sur les coups de leur mari. Voilà, il faut vraiment que les choses bougent, quoi.
Vous voulez parler à ces femmes qui vivent cette situation ? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire ?
Bah, qu'ils se protègent, mais quand ils vont porter plainte, faut vraiment faire attention parce que malgré nous, toutes les plaintes qu'on a portées, ça n'a servi à rien. Donc même la justice qu'elle a fait, le juge, je ne sais pas comment elle a jugé, enfin bon voilà, mais ça a été vraiment tout et n'importe quoi. Donc faut se protéger soi-même, c'est le plus important.
Et ces faits valent aujourd'hui à son ex-compagnon d'être mis en examen et placé en détention provisoire. Le témoignage de Dolores au micro de Philippe Père, ici Normandie. Que s'est-il passé à l'hôpital privé de Thiers dans le Val-de-Marne en janvier et en mars dernier? 2 infirmières de cet établissement ont été mises en examen, l'une pour meurtre et l'autre pour empoisonnement. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
C'est le cas de 2 patientes de 75 et de 23 ans qui ont alerté les autorités.
Oui, pour le premier cas, il s'agit d'une patiente de 75 ans hospitalisée en réanimation à la suite de complications après la pose d'une prothèse de hanche. Et au moment de son transfert vers le service de médecine générale, elle a été retrouvée morte dans le fauteuil de sa chambre. L'autopsie a révélé un emphysème sous-cutané massif, alors même que l'infirmière n'avait rien relevé d'anormal dans ses constantes 5 minutes avant sa mort. Pour le deuxième cas, il s'agit d'une patiente de 23 ans hospitalisée pour une pancréatite, sauf que l'infirmière lui aurait administré trop de morphine, une dose 8 fois supérieure à la normale. La jeune femme a été placée en réanimation. Ce qui pose question, c'est qu'en juillet dernier, la Haute Autorité de Santé n'a pas certifié cet établissement de santé en raison d'une qualité des soins insuffisante, fait rare. Seuls 4% des hôpitaux publics et privés sont concernés. Et quand on regarde dans le détail la décision de la HAS, le rapport pointe la vétusté des locaux, un turnover important du personnel, un manque de coordination entre les équipes, la justification des prescriptions d'antibiotiques pas argumentées et réévaluées dans les dossiers consultés et bien d'autres dysfonctionnements. Mais même si la Haute Autorité de Santé ne certifie pas un établissement de santé, elle n'a aucun pouvoir de sanction. En d'autres termes, elle ne peut fermer l'hôpital.
Merci Victor Delande. Vous avez sans doute entendu ce matin sur Inter l'alerte enlèvement pour ce garçon de 13 ans enlevé hier autour de 18h à Panazol près de Limoges. Eh bien ce garçon diabétique a été retrouvé, ou plus précisément, il est revenu tout seul dans le foyer dans lequel il était hébergé, dans cette structure d'accueil dans laquelle il était hébergé dans cette commune de Haute-Vienne. Une femme et un homme sont toujours recherchés. À Hermont, à une 20aine de kilomètres au nord-est de Paris. C'est un spectacle de désolation qui s'offre aux habitants aujourd'hui. Des arbres arrachés, des voitures retournées. La commune a en fait été dévastée hier soir par le passage d'une tornade. 3 grues ont même chuté, entraînées par la force du vent, tuant un travailleur de 23 ans sur un chantier. Benjamin Mathieu est retourné sur place ce matin.
Ils ont sorti les balayettes, le rouleau de scotch et se retroussent les manches. Les habitants déblaient, passent le balai pour retirer les feuilles et le verre brisé et l'aspirateur dans leur logement. Nicole n'a pas eu le choix, même si sa Twingo est endommagée, elle a quand même pris le volant ce matin.
J'ai eu les vitres, les 2 vitres arrière pétées et sous les côtés, mais c'est pas évident.
Donc là, vous mettez du scotch en attendant de...
Oui, parce qu'en fait, je remets du scotch parce que j'ai amené ma fille jusqu'à Onitre parce qu'elle a son travail. Et c'est pas évident sur l'autoroute.
Juste à côté, Bruno est encore choqué. Son minibus qui sert au transport de personnes handicapées a été littéralement soulevé et déplacé de quelques mètres par la tornade. Toutes les vitres sont brisées.
Il était là, et il s'est retrouvé ici.
Il a bougé de 5 mètres, quoi.
Ouais, voilà. Des gens, ils l'ont vu tellement que ça soufflait, décoller du sol. Bah, moi, je venais de me garer. ça a commencé à y avoir un petit peu d'orage, à tonner et tout. Je suis rentré chez moi. Quoi, deux minutes après, je suis rentré. Un bruit violent. Quand je suis ressorti de chez moi, catastrophe.
Il faudra plusieurs jours pour que ce quartier retrouve un aspect normal. Il va falloir tronçonner les arbres et puis démonter cette grue rouge soufflée et désormais déposée sur le toit d'un immeuble en construction.
Benjamin Mathieu à Hermont avec Laurent Maghetti. Précisément, qu'une grue se renverse ainsi, c'est un événement exceptionnel qui étonne même les spécialistes comme Geoffrey Duhaut, il est technicien de maintenance de grue à Tours.
Alors moi, ça fait 23 ans que je travaille dans le bâtiment et c'est la première fois par rapport à une tornade où les grues se couchent comme ça. C'est souvent une erreur humaine ou un dysfonctionnement, une goupille ou un axe qui s'est retiré pendant la journée. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Une grue a une résistance de 180 km/h. Ben, on ne sait pas exactement la tornade à quel niveau elle était au niveau du vent, mais je suppose qu'elle a dû dépasser les 180 km/h pour dire que les trois grues se couchent. Alors une grue en tout, ça pèse entre 20 et 40 tonnes en comptant les lestes de base. Il veut dire qu'ils sont en bas de la grue, mais si on prend que la partie du haut, on doit être à peu près entre 25-30. Si ça tombe, gros dégâts.
Gros dégâts, effectivement, propos recueillis par Ajra Mohamed. La photo est à la une ce matin du journal L'Est Éclair. On y voit plusieurs hommes habillés comme des militants de la secte raciste américaine, le Ku Klux Klan. Avec ce titre, la soirée de la honte au club de parachutisme de Brienne-le-Château. Nous sommes dans le département de l'Aube. Clémentine Sabrier, on vous retrouve. La Fédération française de parachutisme a déposé plainte. Que s'est-il passé ?
Soirée déguisée à l'aérodrome samedi dernier, un thème plutôt classique, les méchants et les héros, mais une vidéo consultée par le président de la fédération, Yves-Marie Guillot, montre des accoutrements racistes.
5 personnes déguisées en Ku Klux Klan et 3 grimées en personnes noires, ce qui est absolument odieux, d'autant que cette scène est malheureusement glaçante de réalisme.
Les personnes en tenue et capuchon blanc font semblant d'étrangler celle en blackface près d'un feu de bois. Réaction immédiate du président de la Fédération française de parachutisme.
Une colère noire, mais une colère qui ne finira jamais jusqu'à ce que ces gens-là soient sanctionnés si possible par la justice pénale et en tout cas par le comité discipline de la fédération.
Yves-Marie Guillot prend plusieurs mesures dès hier contre les 8 personnes sur les images, mais également contre celui ou celle qui a pris la vidéo. Toutes sont ou ont été adhérentes de la fédération il y a quelques années.
La première, c'est une interdiction de saut de l'ensemble des 9 personnes concernées d'une durée de 3 mois, puisque c'est le maximum qui est autorisé par le règlement disciplinaire. Cette interdiction de saut a été notifiée hier après-midi à toutes les écoles de parachutisme de France.
Le comité de discipline de la fédération est saisi. Les sanctions vont de l'avertissement à la radiation définitive. La fédération de parachutisme va porter plainte demain et se constituer partie civile. Une plainte a déjà été déposée également par le club de Brienne-le-Château.
Clémentine Sabrier.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
10 jours de cessez-le-feu au Proche-Orient entre le Hamas et Israël, mais la trêve est fragile. La reprise des combats le week-end dernier le prouve. Voilà pourquoi le vice-président américain J.D. Vance est arrivé en Israël ce matin. On va en parler dans un instant avec vous, Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Bonjour Thibault.
Bonjour Jérôme.
D'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette information que vous nous avez donnée ce matin. Il y a 10 jours, en Égypte, lors de la conclusion de cet accord de cessez-le-feu, les délégations du Hamas et d'Israël se sont rencontrés, contrairement à ce qu'on avait pu dire. Que sait-on de cette rencontre, Thibault ?
Eh bien, cette rencontre a eu lieu dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre. Il est 2h du matin et donc pour la première fois, les deux délégations sont dans une même pièce pour officiellement échanger sur l'accord qui entrera en vigueur une dizaine d'heures plus tard. Jusque-là, chacun était dans un lieu différent et ce sont les médiateurs qui faisaient la navette. Le moment a été immortalisé dans une vidéo qui n'a jamais été diffusée et c'est donc le négociateur israélien Gershon Baskin que vous avez pu entendre dans le journal de 6h30 de la grande matinale qui m'a raconté cet échange de regards à défaut de poignées de main entre donc les délégations israéliennes et celles du Hamas.
Bon, désormais Thibault, il faut tenir ce cessez-le-feu, c'est précisément l'enjeu de la visite de J.D. Vance.
Oui, en Israël, et maintenant dans la presse américaine, on les appelle les Bibi babysitters, comprenez, les babysitters de Benjamin Netanyahou, alias Bibi. Il y a donc le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, son émissaire au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et désormais J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, va notamment rencontrer cet après-midi les 200 soldats américains installés depuis une semaine en Israël pour superviser le cessez-le-feu. Et il a une mission très simple, empêcher, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou de rompre unilatéralement le cessez-le-feu, comme le Premier ministre israélien l'avait fait en mars dernier.
Thibault Lefebvre, correspondant d'Inter à Jérusalem, la réouverture des points d'entrée vers Gaza est une urgence absolue pour faire entrer l'aide humanitaire. Voilà ce que dit ce matin Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'exprime aussi sur la situation politique en France. Des perspectives de référendum sont possibles pour réformer les retraites, dit-il, en attendant la suspension de la réforme des retraites de 2023 qui a été promise par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Les députés, eux, poursuivent en ce moment l'examen du projet de budget 2026. Ça se passe à l'Assemblée, en commission. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Vous surveillez tout cela comme le lait sur le feu. À ce stade, pas de changement, et c'est l'info de la matinée, pas de changement pour les impôts des retraités. Les députés ont sauvé leur abattement ce matin.
Oui, après un tir de barrage venant de presque tous les groupes ce matin contre la fin de cette déduction fiscale de 10% et son remplacement par un abattement forfaitaire de 2000 euros.
C'est un coup bas que vous aviez déjà tenté l'an dernier. Comme vous refusez d'aller chercher l'argent où il est vraiment, vous en êtes réduit à faire la poche des retraités.
Une nouvelle mesure qui, une fois encore, traite les retraités comme une variable d'ajustement budgétaire.
Protégeons nos retraités. Ils ont travaillé très durement toute leur vie et ils doivent franchement vivre dignement de leur retraite.
Vous venez d'entendre dans l'ordre la députée insoumise Claire Lejeune, Stéphanie Galzi du RN et le LR Jean-Pierre Vigier. Car oui, même la droite a voté contre cet article 6. Vraiment pas convaincu par le gouvernement qui défend lui une mesure d'économie, certes, mais qui viserait surtout les retraités les plus aisés. Colère froide du macroniste Guillaume Kasbarian.
Moi, je ne sais pas expliquer qu'on maintienne un abattement de 10% pour frais professionnels des retraités. Je crois que c'est pas très sérieux. On a un système de retraite qui est déjà hyper déséquilibré. Et on a une classe politique qui le sait très bien, mais qui, par pur électoralisme, refuse de toucher le moindre sujet qui concerne les retraités. Je trouve que c'est pas très responsable.
Mais ce n'est pas le seul échec du camp gouvernemental. Ce matin, la commission des finances est aussi opposée à l'augmentation de la fiscalité sur les biocarburants. Alors, en cette mi-journée, les macronistes réclament un point d'étape budgétaire. Ils veulent savoir quel coût supplémentaire serait engendré par le renoncement à toutes ces mesures d'économie. Même si, rappelons une fois encore, Jérôme, qu'on repartira de zéro un vendredi dans l'hémicycle.
Alexis Morel, et on va en reparler à partir de 13h30 avec notre invité, l'économiste Anne-Sophie Alsif. Et avec vous, 01 45 24 7000 pour vos questions. Comment construire des logements qui manquent dans notre pays sans bétonner davantage de terre? Le principe zéro artificialisation nette est inscrit dans la loi depuis 2021. Mais il empêcherait de construire, selon ses détracteurs. Faux, estiment les ONG Fondation pour la Nature et l'Homme, France Nature Environnement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés, qui publie aujourd'hui un rapport sur la région Île-de-France. C'est la région de France où les besoins sont les plus importants. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Sans bétonner, il est possible de sortir 70 000 logements par an, disent-ils.
Oui, l'objectif qui est inscrit dans la loi, c'est 70 000 logements livrés chaque année d'ici 2030, surtout des logements sociaux. L'an dernier, moins de 18 000 ont été livrés. Et pour augmenter la cadence, pas besoin de bétonner, nous dit ce rapport qui identifie 8 gisements. Transformer certains bureaux vacants, 14 000 logements par an. Rehausser certains pavillons par petites touches, 30 000 autres. Et puisque 400 000 logements sont vacants dans la région, un quart pourrait être habité à nouveau, estime Thomas Utayakumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec une incitation fiscale par exemple.
Plus on a des propriétaires qui ont de logements vacants, plus la taxation sera progressive et à la hausse, de manière à les inciter à remettre du logement vacant dans le marché de la résidence principale. Avec près d'1,3 million de franciliens mal logés, ça paraît être nécessaire.
À l'échelle nationale, les associations avaient déjà estimé que 400 000 logements sont livrables sans bétonner. Et si ce nouveau rapport focalise sur l'Île-de-France, c'est que la région est la plus artificialisée du pays.
25% de l'Île-de-France est artificialisée, contre 9% de la France métropolitaine. On n'est pas obligé de poursuivre cette logique parce que chaque jour, la région, elle perd l'équivalent de 3 terrains et demi de foot d'espace naturel. Donc le résultat, c'est plus de chaleur, plus de sécheresse, plus d'inondations et plus de pollution.
L'Île-de-France est en effet la région la plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique.
Rémi Brancato, le site Stellantis de Sochaux va rester à l'arrêt au moins jusqu'à lundi prochain, annonce de la direction ce matin. La production y est stoppée depuis mercredi dernier à la suite d'un problème d'approvisionnement des boîtes de vitesse. Venons-en maintenant à cet exploit majuscule réalisé mercredi dernier dans l'Himalaya par deux alpinistes français, Benjamin Védrine et Nicolas Jean. L'ascension du Janu Est par sa face nord, sommet de près de 7500 mètres dans la partie orientale de l'Himalaya népalais. Noureddine Zidane, vous allez nous raconter cette performance inédite et réalisée sans corde fixe ni assistance respiratoire.
Le sommet du Janu Est, tellement donné à la fin.
Des pleurs de joie après trois jours d'efforts à gravir une immense muraille de glace et de neige immaculée. Spectacle magnifique et terrifiant à la fois. Là-bas, les températures de moins 20 degrés sont courantes, mais l'oxygène y est très rare.
T'as mal à la tête ?
Ouais.
Ouais. Ouais, bah laisse tomber.
Première tentative avortée l'année dernière. Alors Benjamin Védrine et Nicolas Jean se promettent de revenir pour s'acclimater. Ils passent près d'un mois et demi à 4500 mètres d'altitude. Il y a 8 jours, les conditions météo sont un peu plus favorables. Alors ils s'élancent avec 20 kilos de matériel sur le dos. Benjamin Védrine a pourtant déjà dompté le K2, 8611 mètres d'altitude en moins de 11 heures. Mais le Janu Est est très particulier.
Il y a peu de phases comme ça en Himalaya, ça demande quand même beaucoup d'expérience, beaucoup d'audace. Il y a beaucoup plus d'incertitudes que sur des voies normales sur les 8000. Ça demande beaucoup plus de temps pour grimper, parce qu'on est sur un terrain où il n'y a pas de monde qui fait la trace, où du coup, tu vois, rien que pour aller à 6008, on galère, il faut ouvrir un nouvel itinéraire.
Et un projet que personne n'avait pu boucler avant eux et près de 4 décennies de tentatives infructueuses. Ascension mythique et parfois tragique, comme celle de l'alpiniste américain Michael Gardner il y a un an, qui avait fait une chute mortelle dans ce Janu Est.
Récit Noureddine Zidane, l'altitude est nettement moins élevée, mais le paysage y est majestueux. Ce n'est pas l'Himalaya, c'est le Cantal. Avec cette pub totalement inattendue pour ce département, une vidéo postée par l'acteur Pierre Ninet qui vient d'y passer quelques jours dans le Cantal pour s'isoler, préparer un rôle. Plus de 375 000 j'aime pour cette vidéo dans laquelle le comédien partage les vues à couper le souffle depuis le buron dans lequel il a dormi. C'est à Saint-Jacques-des-Blats, tout près de la station du Lioran. Comment s'est-il retrouvé là, Juliette Micheneau ?
Alors ce buron, il est à Nancy Tate, une ex-actrice américaine qu'il a acheté et reconstruit avec son mari auvergnat. Et elle aussi, elle a été très surprise.
Hasard complet, sa femme est venue début avril dernier. Elle écrivait son livre et elle a beaucoup aimé, visiblement, parce qu'on a parlé à son mari. Et en fait, j'ai vu le truc, c'était Pierre Ninet. C'était assez fascinant, on va dire. Il a eu du soleil du matin au soir. Tout est mis en valeur, en fait. La lumière, elle est douce, elle est plutôt rasante. Ça fait vraiment des très jolies vues. C'est extra.
De quoi charmer l'acteur en quête de nature, de calme, pile l'esprit de la prochaine campagne touristique du département.
Le Cantal, un luxe nouveau.
Bruno Avignon est le directeur général de Cantal Destination.
Je crois qu'il dit, je voulais marcher seul et être tranquille, histoire de se poser, parce que sûrement qu'il a une vie assez intense, Pierre Ninet. Eh bien, c'est exactement l'axe. D'ailleurs, les gens le disent quand on fait des enquêtes clientèle. Ah ben, chez vous, vous avez le temps et vous n'êtes pas les uns sur les autres. C'est un luxe.
Un luxe qui a un prix tout de même. Le buron où a séjourné Pierre Ninet se loue dans les 1500 euros les trois nuits. Mais ces abris montagnards ont la cote.
Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui ont ouvert cartonnent. Alors, on a beaucoup de demandes de gens, d'investisseurs qui veulent acheter un buron. Forcément, les prix y montent.
Et c'est devenu un vrai produit d'appel pour le tourisme cantalien.
Sujet signé ici, Auvergne, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, quel budget pour la France ? L'an prochain, les députés ont débuté hier l'examen du projet de loi de finances. Situation inédite, sans l'utilisation du 49.3, il va être largement amendé. 01 45 24 7000 pour vos questions à l'économiste Anne-Sophie Alsif qui est avec nous dans un instant. 13h45, c'est notre feuilleton, toujours chez le coiffeur à Mâcon avec des clientes qui, vous l'entendrez, ne sauraient se passer de ce rendez-vous. Puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de la chapelle Saint-Laurent dans les Deux-Sèvres à Najac en Aveyron, en passant par Astafort dans le Lot-et-Garonne, on parlera des initiatives parfois surprenantes des communes pour attirer des médecins.
Et avec vous Frédéric, un chorégraphe.
Philippe Lafeuille, qui écoute Barbara depuis qu'il est enfant et n'a jamais cessé de l'écouter depuis. Il est même allé la voir très souvent en concert. Il se rappelle de grands moments d'amour et de partage. Et avec lui, c'est L'île aux Mimosas que nous écouterons.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 14h15, Mathieu Vidard.
Ce mardi, une journée à la préhistoire, la chercheuse Sophie Daubonne a choisi de raconter comment se passait la vie quotidienne de nos ancêtres il y a 15 000 ans. Elle nous embarque avec elle dans la machine à remonter le temps.
La Terre, au carré, tous les jours à 14h15 sur France Inter.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
France Inter, partenaire de Arco, un film de Hugo Bienvenu.
T'es qui, toi ?
Une petite fille voit un mystérieux garçon vêtu d'une tenue arc-en-ciel tomber du ciel. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible.
Comment je t'appelle ? Moi, c'est Iris. Arco.
Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui.
Faut pas qu'on reste ici ! Je pourrai jamais rentrer chez moi !
Arco, cristal du meilleur film au Festival d'Annecy, au cinéma le 22 octobre. Wouhou ! Un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Après-midi pluvieux sur le sud.
Oui, une perturbation glisse cet après-midi entre le bassin aquitain, l'Auvergne, les Alpes et la Franche-Comté. Alors les pluies seront moins soutenues que ce matin, il a d'ailleurs beaucoup plu sur les Charentes. En revanche, elles seront régulières sur l'ouest du Massif central, le sud de la Bourgogne et l'est du Rhône. Les nuages de cette perturbation déborderont largement sur le Languedoc et l'ouest de la Provence, alors que des éclaircies résisteront le long des Pyrénées jusqu'à l'Aude, sur les Alpes-Maritimes, ainsi que sur la Corse pour un après-midi plus lumineux. Du Poitou-Charentes à la Bretagne jusqu'au Grand Est et Hauts-de-France, le ciel sera aussi plus changeant, avec beaucoup de nuages et de timides éclaircies, et également quelques averses passagères possibles, notamment entre la Normandie et le Pas-de-Calais. Et puis en fin de journée, une nouvelle salve bien pluvieuse va arriver par la façade atlantique, en s'enfonçant en soirée entre la Gironde et le sud de la Bretagne. Malgré une petite baisse, les températures maximales restent voisines des normales de saison, de 14 à 21 degrés en général, avec 16 degrés à Lyon, 17 à Paris, ou encore 20 degrés à Bordeaux et à Marseille. L'ambiance est un peu plus douce sur le Roussillon et la Corse, jusqu'à 23 à 25 degrés. Et puis à noter aussi du vent assez sensible sur la moitié sud et près des côtes du Nord-Ouest.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste pour le réseau d'audit BDO France, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous allons parler ensemble de la construction de ce budget 2026. Le volet recettes du projet de loi de finances est examiné depuis hier en commission à l'Assemblée. À partir de jeudi, ce sera le tour du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il est question notamment de la contribution des retraités. On va en parler ensemble, puisque Alexis Morel, notre journaliste, nous l'a dit il y a un instant, il était aussi question des retraités et de leurs impôts. Ce matin, à l'Assemblée nationale, on va revenir sur ce vote de la commission. Avec vous, 01 45 24 7000, appelez-nous, vous êtes déjà nombreux à le faire. D'abord, Anne-Sophie Alsif, votre analyse de la situation qui, je le disais, est inédite. Comment est-ce que vous regardez la construction de ce budget, puisque 149.3, les députés ont une marge de manœuvre rarement vue à l'Assemblée?
Oui, je regarde ce budget avec inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation budgétaire préoccupante. On n'a pas de problème de soutenabilité de dette, mais on a un problème de trajectoire de nos finances publiques. On l'a vu avec notamment la dégradation de l'agence de notation S&P, donc qui a été avancée à cause de justement le fait de remettre en cause cette réforme des retraites. Et vous l'avez dit, 149.3, on voit que les pistes de faire des économies vont être très faibles. Ce qu'on nous reproche et ce que regardent les investisseurs, c'est notre capacité à avoir un budget sur le long terme et de faire des économies. Pas forcément en 2-3 ans, ça peut être sur le long terme, le moyen-long terme, mais en tout cas de s'y tenir et d'avoir une parole qui a de la valeur. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué en revenant sur des réformes comme la réforme des retraites.
Mais qu'est-ce que vous craignez? Que laisser en liberté, si je puis dire, sans le 49-3, les députés se lâchent et multiplient les dépenses? Ils ne sont pas responsables
Complètement, c'est ça la grande difficulté, alors qu'on est dans une situation économique qui devrait aller mieux si on n'avait pas cette crise politique. Hein, on n'a plus d'inflation, on a un pouvoir d'achat qui augmente, on a des taux d'intérêt qui baissent. Donc
n'irait pas si mal pour l'économie sans la crise politique, c'est
exactement.
Ça que vous nous dites.
Exactement. Et donc, normalement, c'est le moyen de faire des économies quand on a un peu plus de croissance et quand ça va un peu mieux. Et là, on voit, on commence, hein, toutes les pistes d'économie, en raison, en effet, de 2027 et de l'élection présidentielle qui n'est pas loin, eh bien, énormément de députés, même qui, normalement, se sont prononcés dans le passé pour telle ou telle réforme, eh bien, on voit, disent non pour des raisons électoralistes. Donc, c'est ça qui est très compliqué, parce qu'on a besoin d'un budget pour 2026 et on a surtout besoin d'un budget pour rassurer nos investisseurs et nos prêteurs. Aujourd'hui, hein, il faut le dire, la majorité de nos services publics sont financés par les marchés financiers.
C'est comme ça que vous analysez le vote ce matin en commission sur la proposition du gouvernement de supprimer l'abattement de 10% pour les retraités. Ça, c'était la proposition faite par Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Elle a été retoquée. Les députés ont dit non, on garde finalement l'abattement pour les retraités.
Oui, c'est un mauvais signal. Pourquoi ? Déjà, il faut rappeler pourquoi cet abattement a été fait. Il a été fait après la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'il y avait les Trente Glorieuses, et en effet, le revenu des actifs augmentait beaucoup plus que celui des retraités. Et non, pour une question d'équité, on a fait ces frais professionnels, parce que vous dites frais professionnels...
Les actifs étaient plus riches que
exactement,
les retraités.
Exactement, en tout cas, s'enrichissaient plus.
Il fallait compenser les choses.
Il fallait compenser.
D'accord.
Frais professionnels, on se dit, quand on est retraité, c'est un petit peu bizarre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on n'est plus dans cette situation. Donc là aussi, quand il y a quelque chose qui a été fait, c'est parce qu'il y avait une dichotomie. Aujourd'hui, on l'a plus. C'est vrai qu'on peut questionner du dispositif. Et c'est exactement le cas de ces 10%. En plus, ce qui était proposé par le gouvernement était intelligent parce que l'objectif, c'était de garder le pouvoir d'achat des plus basses pensions, mais par contre, de mettre un peu plus à contribution les pensions les plus élevées.
Vous diriez qu'aujourd'hui, la situation s'est inversée, c'est-à-dire qu'à l'époque, les actifs étaient plus riches que les retraités. Aujourd'hui, les choses se sont
alors,
inversées.
Alors, ce n'est pas encore le cas, mais quand on regarde les
c'est
courbes...
C'est aussi des petites
hein,
retraites.
Notamment... Tout
c'est
à fait.
Des gens qui nous écoutent, qui doivent
retraites.
Hurler en disant « mais moi, je
ne suis tout à fait d'accord avec vous. » Mais quand vous regardez en termes macroéconomiques, globalement, hein, aujourd'hui, les plus de 85 ans n'ont jamais concentré autant de richesses depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien, c'est une très bonne chose, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de ne pas, à mon sens, stigmatiser actifs retraités, mais d'avoir une politique de contribution en fonction de ses revenus et de son patrimoine, quel que soit son statut.
Est-ce que vous anticipez, là je prends un tout petit peu d'avance, puisque ça sera dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, le gel des pensions de retraite est a priori à l'ordre du jour,
oui.
Retraite qui ne serait plus indexée sur l'inflation. Est-ce que vous anticipez que ce changement-là aussi soit balayé par les députés ?
Complètement, toujours pour des raisons électoralistes. On l'a vu hein, depuis les dernières années, on a eu ces indexations des pensions sur l'inflation pour justement répondre aux préoccupations. Là, l'INSEE a fait une
ceux
très bonne note de conjoncture.
Ceux qui touchent les salaires, le salaire n'était pas indexé
exactement.
Sur l'inflation. En revanche,
on l'a fait pour les retraités
voilà.
Trois fois. Bon. On l'a fait, donc on peut évaluer. On est bien en économie, là on peut évaluer. Et l'INSEE a fait une très bonne note, hein, notamment cet été, sur justement le taux d'épargne qui a explosé. Et qu'est-ce qu'on voit avec cette indexation ? Alors bien sûr, il y a des retraités qui l'ont consommé, etc. Ça, il n'y a pas de sujet, mais une grande partie, eh bien cet argent, il a juste été épargné. Donc l'État s'est endetté sur les marchés financiers, a donné donc de l'argent pour cette indexation des retraites, et cet argent, c'est de l'épargne. Et en fait, c'est ça notre grande difficulté, c'est que si cet argent avait par exemple été consommé ou investi, ça crée de la croissance et donc de fait, ça a un impact sur le déficit. Là, on voit qu'on est toujours dans des mesures qui sont purement électoralistes, parce qu'en effet, cet électorat représente 20% hein, de la population,
vote
énormément,
plus que les jeunes.
Tout parti. Et donc, on fait des mesures qui peuvent être complètement contre, mauvais économiquement, puisqu'on l'a vu, c'est de l'épargne, on peut regarder ce qui s'est passé, hein, ça ne s'est pas traduit par de l'investissement ou de la consommation. Pour des raisons, en effet, électoralistes, et donc ça a un impact sur la croissance et sur aussi le potentiel d'investissement du pays.
Jérôme est en ligne avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Monsieur Dan. Voilà, ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas taxer ou imposer réellement les GAFAM ainsi que toutes les entreprises américaines qui pratiquent l'optimisation fiscale ?
Merci Jérôme pour cette question, Anne-Sophie Alsif.
Excellente question à poser, merci beaucoup. Ce serait tout à fait possible si on avait la même taxe au niveau européen. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des GAFAM n'ont pas leur siège notamment en France, mais dans des pays comme l'Irlande, où vous avez un taux d'impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus bas hein, que les pays européens, je crois autour de 12%. Et donc, comme vous n'avez pas d'harmonisation fiscale au niveau européen, eh bien, c'est très compliqué de mettre en place ces taxes. On pourrait le faire au niveau en France, il y a déjà eu quelque chose qui a été fait au niveau européen, en France, Bruno Le Maire l'avait proposé, mais vous allez avoir, on va dire, un retour de taxes qui va être très faible. Hein. On parle d'un milliard, mais moins, qui va être dégressif. Pourquoi ? Parce que le capital est mobile, le travail ne l'est pas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de taxer le capital quand on n'a pas une décision collective d'harmonisation, c'est-à-dire le même taux d'imposition partout en Europe, alors que le travail, c'est beaucoup plus facile. Malheureusement, on ne gère pas les finances et le gouvernement irlandais.
Mais ça veut dire que Amazon, sur ses activités en France et sur l'argent qu'il fait en France, ne paye aucun impôt ?
Si, mais beaucoup moins que si en effet ils étaient basés en Irlande. Donc ce sera en effet possible. Tout à fait, ça serait possible. D'ailleurs, en effet, Bruno Le Maire avait essayé de le faire. Le problème, c'est que par rapport aux montants qui sont espérés, vous allez avoir une taxe qui va rapporter beaucoup moins que ce que l'on parle des retraités ou d'autres catégories. Pourquoi on est sur les retraités ou en effet, on regarde certaines catégories d'actifs ? C'est en fait la question du volume. C'est ça, en fait, le sujet. C'est qu'en volume, tout de suite, dès que vous faites une mesure, comme ça concerne beaucoup, beaucoup de gens, eh bien, ça rapporte beaucoup plus. Et c'est pour ça, en effet, que le gouvernement, aujourd'hui, soulève ses pistes.
Mais pour que ce soit bien clair, Amazon paye quand même...
Amazon paye tout à fait ses impôts en France, tout à fait.
Toujours sur les entreprises, dans ce projet de loi de finances, il y a la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises. Ça, c'est un signal envoyé aussi par le gouvernement.
Oui, donc ça, c'est un signal qui était plutôt positif, hein, notamment pour la gauche, hein, de dire que voilà, on continue de classer en effet ces grandes entreprises. Là, ça touche des grandes entreprises, donc en effet, qui ont eu de bons résultats, notamment l'année dernière. Donc, c'est un impact, mais voilà, qui est soutenable. Donc là, c'était aussi un appel à la gauche de dire pas de censure, regardez, on fait un effort sur les grandes entreprises. L'idée, et à mon sens, c'était une bonne idée pour encore une fois essayer d'avoir du consensus et ne pas avoir de censure.
En revanche, la taxe Zucman, examinée hier soir, a été écartée.
Oui.
Votre point de vue là-dessus, Anne-Sophie Alsif ?
Très bonne nouvelle, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prix Nobel d'économie. En fait, il y a deux questions. On peut en effet avoir ces taxes pour des questions d'équité, mais de l'autre côté, on passe à côté de la révolution industrielle, comme par exemple l'intelligence artificielle ou d'autres révolutions ou de la réindustrialisation. Donc après, c'est un choix.
Passe à côté de ces révolutions-là ?
En effet, on a en Europe, malheureusement, on a peu d'entreprises en intelligence artificielle. La majorité de l'investissement se fait aux États-Unis et la majorité de ces entreprises dans ces secteurs-là perdent de l'argent. Donc en fait, leur montant, et la taxe Zucman, vous l'avez taxée, c'est leur valorisation. C'est comme vous avez un pavillon à 200 000 euros, tout d'un coup, votre région devient incroyable, votre pavillon veut 1, 2 ou 3 millions. Vous n'avez pas cet argent sur votre compte. C'est la valorisation de votre maison qui se concrétise quand vous arrivez à le vendre. Et bien pour ces entreprises-là, c'est exactement la même chose. Et donc si on fait ce type de taxe en ce moment, en plus en étant massivement désindustrialisés en France, hein, par rapport à l'Italie ou l'Allemagne, eh bien ça veut dire, un, que vous allez en effet faire que l'investissement dans ces secteurs-là ne va pas aller en France, mais va aller ailleurs.
Tous ces votes, en ce moment en commission, ils peuvent être complètement remis en cause vendredi. On peut avoir un texte inverse à partir de vendredi.
Comme on n'a pas le 49-3, on voit que tout est ouvert, et là, pour des logiques politiques dont on a parlé précédemment, c'est tout à fait possible.
Ça sert à quoi alors ce qui se passe en ce moment à la Commission ?
Pardon pour cette question,
mais c'est pour qu'il y ait deux fois du débat. La Commission, c'est une partie des députés.
Exactement. C'est vraiment qu'il y ait le débat. On voit que c'est quand même très important vu comment est structurée la Commission et l'Assemblée. Donc c'est bien qu'il y ait du débat. Et puis aussi, hein, pour le gouvernement, voir un petit peu les lignes rouges, là où ce sera possible, pas possible, pour pouvoir ajuster le tir dans son budget.
Isabelle est en ligne avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Monsieur Calais, bonjour Madame Altif.
Vous nous appelez Toulouse, nous vous écoutons.
Oui, c'est ça, à côté de Toulouse. La question que je me pose, c'est que Madame Altif vient de dire que c'est surtout des questions de volume, de taxer sur des registres où ça fait du volume. Mais moi, la question que je me pose, c'est que on entend souvent, les députés, tous les gouvernants ne remettent pas en cause ni leur salaire, ne parlent pas de se taxer eux-mêmes, de taxer les anciens ministres et présidents qui ont des avantages en nature et en argent. Et je trouve ça un petit peu étonnant parce que ils ont fait le job, ok, mais maintenant ils ne le font plus. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à avoir des avantages ? Et d'autre part, pourquoi est-ce que notamment les députés qui ne siègent pas, parce que souvent on entend que pendant l'été l'hémicycle est aux trois quarts vide, ils ont des avantages, ils ne font pas toujours leur travail et il y a des avantages qui font un peu air de cour d'ancien régime, alors qu'ils ne font pas le... Voilà.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a mis fin aux avantages des anciens Premiers ministres récemment, mais ce que je comprends, Isabelle, c'est que vous voudriez aller plus loin, qu'ils aient moins d'indemnités et qu'elles soient limitées dans le temps. Oui.
voilà, limité dans le temps. Une fois qu'ils sont plus ministres ou présidents, bah, il n'y a pas de raison qu'ils continuent à percevoir les mêmes avantages, que ce soit en nature ou en monétaire. Et d'autre part, bon, taxer les retraités, bah, ça fait peut-être du volume, mais voilà, taxer tout le monde, a priori, à commencer, on donne l'exemple quand on est au gouvernement, on est là pour servir et non pas pour se servir, et donc c'est bien de commencer par soi-même.
Je précise, Isabelle, que pour les anciens ministres, ils ne touchent plus d'indemnité une fois qu'ils ont retrouvé un poste, qui était le cas, je crois, pour quasiment tous les anciens ministres du précédent gouvernement. Le cornu, Anne-Sophie Alsif, ça serait une vraie mesure d'économie, c'est symbolique, les deux?
Alors, en effet, au niveau monétaire, c'est symbolique. Parce
que, je précise
comme
qu'on
on a dit,
beaucoup d'appels sur ce sujet.
Comme vous l'avez très bien dit, en volume, voilà, ça ne représente pas beaucoup. Mais là, en effet, en termes de symbolisme, et vous le disiez très bien, chacun doit contribuer à sa mesure. C'est en effet une piste. C'est pour ça que, à mon sens, le Premier ministre a essayé de réduire une partie des avantages. Quand on regarde au niveau européen, hein, ce n'est pas le cas qu'en France. Hein, les premiers ministres, les présidents, même dans les autres pays, ont, on va dire, des avantages en nature une fois qu'ils quittent leur fonction. Là, il y a la question quand même de les réduire, parce que vous avez dit, quand on a un budget et des finances publiques dans un tel état, on peut faire des réductions. Ce n'est pas ça qui va baisser massivement le déficit, on est d'accord. Mais en tout cas, le signal est, comme tout le monde contribue par rapport à ce qu'il peut, c'est un signal qui va plutôt dans ce sens-là.
On parlait des entreprises. Il y a une niche fiscale qui est un avantage pour les entreprises, qui concerne la transmission des entreprises. C'est le pacte Dutreil. La direction du budget au ministère des Finances a revu très récemment à la hausse le coût de ce pacte, c'est-à-dire ce que ça coûte aux finances publiques. Cette niche fiscale est désormais estimée à 4 milliards d'euros pour 2026. Autant cette année, c'était 5 milliards. L'an dernier, c'est une des niches fiscales qui coûte le plus cher, Anne-Sophie Alsif. Quelle est la logique?
Alors, la logique, c'était de favoriser toujours la transmission des entreprises. Comme vous le savez, on est très désindustrialisé, on l'a déjà dit. Et donc, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que beaucoup de dirigeants étaient assez âgés. Et au moment de partir à la retraite, eh bien, on ne retrouvait pas de repreneurs et beaucoup de ces entreprises disparaissaient. Donc, on a mis en place ce dispositif où les personnes qui voulaient la reprendre, même les enfants et autres, devaient payer tellement de taxes qu'ils devaient vendre l'entreprise. Donc, l'idée, c'était encore une fois de protéger l'appareil productif. Le problème est souvent, comme beaucoup de niches, mais que ce n'est pas le cas de celle-ci, c'est qu'à mon sens, elle n'est peut-être pas bien fléchée, notamment sur le fait de mettre les biens professionnels. On voit que parfois, le but, c'est en effet d'exonérer tout ce qui est bien professionnel, donc qui correspond à l'entreprise. Mais des fois, vous pouvez avoir plus qui est intégré. Et donc, en effet, moi, je pense que c'est bien de le conserver, mais peut-être davantage le cibler pour que ça coûte moins cher à l'État, faire des économies.
Parce qu'on n'était pas du tout sur cette estimation-là. Mais non, mais ce qui pose aussi la question du budget, quand on voit des chiffres qui varient de 500 millions d'euros à 4 milliards,
alors, pourquoi on n'a pas bien évalué aussi, c'est qu'on a toujours ce vieillissement de la population et qu'en effet, on a eu ces dernières années beaucoup plus de personnes qui pouvaient transmettre, du coup, de la démographie. Et en termes de création d'entreprises, on a beaucoup de création d'entreprises en France, mais c'est beaucoup des micro-entreprises, donc jeunes, et qui sont auto-entrepreneurs. Donc, ce n'est pas le même type d'entreprise. Et donc, en effet, ce type de niche s'est envolé un petit peu dans le coup. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est très bien de le conserver, parce qu'il faut absolument que ces entreprises ne soient pas perdues. Par contre, davantage cibler.
Flécher et réduire peut-être les ciblés. Merci Anne-Sophie Alsif d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14 pour nous poser les enjeux. Cette discussion, on aura l'occasion d'en reparler évidemment dans les semaines qui viennent. 13h47 Merci. Sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, nous passons toute cette semaine au salon. Salon de coiffure dans le centre-ville de Mâcon, Saône-et-Loire. Deuxième épisode aujourd'hui, le bien-être n'a pas de prix. Nous suivons Mariam El Kurdi.
Elle a fait un joli don de ses cheveux. Elle avait les cheveux en bas du dos, enfin même bien en bas du dos. Et elle a fait un très joli don de ses cheveux pour faire les perruques. Une longueur pareille, c'est vraiment super.
C'était pas du tout prévu à mon arrivée. Et quand on m'en a parlé, je me suis dit, bah oui, c'est évident, quoi. C'est une bonne action, donc si je peux le faire, c'est très bien.
Quel âge vous me donnez?
Aucune idée.
Eh bien, j'ai 68 ans.
Vous ne les faites pas du tout.
Merci, oh, c'est un joli compliment. C'est grâce à moi, coiffeuse.
Alors, qu'est-ce que vous êtes venue faire aujourd'hui?
Alors, je suis venue faire les racines pour que les cheveux blancs qui repoussent soient cachés par une certaine couleur. Voilà. Et puis, les couper un peu.
Vous ne voulez pas qu'on voit vos cheveux blancs?
Non, voilà.
Pourquoi?
Parce que c'est, pour moi, c'est une coquetterie. Donc, je reviens tous les mois.
Je vous ai bien noté à 15h30. Voilà. La place est réservée. Je vous en prie.
Je vais faire un carré, je vais faire une couleur du coup un petit peu plus foncée de ce que j'avais. Bah, du moment que ça me plaît, en soi, je suis prête à mettre le prix qu'il faut pour ressembler à ce que je souhaite ressembler. J'y vais pas souvent, donc quand j'y vais, j'aime bien du coup. Comment dire ? Comment ? Voilà, c'est ça, se faire plaisir.
À bientôt.
Je m'appelle Marie-Christine. J'ai passé la soixantaine amplement et je suis à Mâcon depuis très longtemps comme fonctionnaire, mais j'ai gardé mon accent. J'ai gardé l'accent du Midi puisque je suis originaire de Carcassonne. Je viens à peu près, pour moi, mon rythme, c'est toutes les 6 semaines à peu près pour la couleur. Ça me fait peur, le vieillissement me fait peur. Jusque-là, j'y pensais pas, mais là, la bascule s'est faite, je sais pas pourquoi. Le coiffeur, il fait oublier la bascule. Quand on sort, on se trouve un peu plus beau. Donc, on oublie la bascule. C'est un coup. Oui, oui, oui.
C'est combien ?
C'est plutôt entre 80 et 120 euros. Hein. J'ai mes petites économies. Effectivement, c'est un luxe.
J'en aurais pour environ 71. 73, oui.
73 euros.
C'est exact.
Et ça va au niveau tarif ?
Je préfère me priver d'autre chose, mais j'insiste pour avoir une très belle coiffure.
C'est-à-dire, vous vous privez de certaines choses ?
Oui, c'est-à-dire, je n'irai pas au cinéma, par exemple, mais je tiens à venir chez le coiffeur très régulièrement. Je choisis mes dépenses. Je suis toujours en activité, j'enseigne l'anglais. Et j'estime que c'est une politesse que je dois à mes clients, d'être bien coiffée. Voilà l'image de soi, bien sûr. Le respect de l'autre, surtout. Le respect de l'autre. C'est essentiel pour moi. Essentiel. Les Anglais l'appellent « me time ». Donc c'est du temps pour moi. C'est important. Quand vous regardez une personne, c'est le visage. Vous regardez la personne dans les yeux, c'est le visage que vous voyez en premier. Avant ses vêtements, avant ses chaussures, avant son sac à main. Donc le visage, donc la coiffure. Et c'est primordial. Et dès qu'on a trouvé son coiffeur, il ne faut pas le lâcher.
La vie au salon. Maria Melkurdi, réalisation Vincent Godard. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h51, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui Cyril, petites histoires de déserts médicaux.
Et je vous emmène Jérôme à la chapelle Saint-Laurent dans les Deux-Sèvres. Alors ce village de 2000 habitants vient d'annoncer avoir trouvé 2 dentistes et 1 orthodontiste, un événement local car plus aucun praticien n'y exerçait depuis plusieurs années. Alors vous allez me demander Jérôme...
Comment est-ce possible ?
Eh bien tout ça grâce à une grande banderole sur le bord de la route. On en voit souvent sur ces panneaux stratégiquement placés, les mairies appellent à l'aide et espèrent attirer des médecins. Eh bien cette fois ça a marché.
Et plutôt 3 fois qu'1.
Absolument, le maire Jean-Yves Billeux s'est confié la semaine dernière au Courrier de l'Ouest, je le cite, c'est un vrai coup de chance, le dentiste exerçait à Niort et un jour, il a pris la route de la chapelle Saint-Laurent, il a vu la banderole et nous a contacté, c'était qu'il y a 1 an. Alors, 12 mois après, le dentiste est revenu pour s'installer à temps partiel dans sa valise, son matériel et bientôt son frère, lui aussi dentiste, mais à Paris. Hein. Et en 2026, ce dernier exercera à temps plein dans le bocage Bressuret et 1 et 2 et 3 même Jérôme, puisqu'un orthodontiste l'accompagnera. Alors, depuis la rentrée, le cabinet du premier dentiste ne désemplit pas, en tout cas, nouvel objectif du maire, attirer un médecin généraliste.
Bon, on en voit un peu partout de ces panneaux, Cyril. C'est un succès rare ?
Rare, mais pas isolé. Un mercredi, la semaine dernière, le conseil municipal d'Augan dans le Morbihan a aussi annoncé avoir retrouvé une médecin grâce à la banderole installée en bordure de la Nationale 24. Elle s'installera en avril, nous dit Ouest France. Alors, pendant 2 ans, des centaines de milliers d'automobilistes avaient lu ce message. Vous êtes médecin, point d'interrogation, tentez l'expérience auganaise. Alors, même si ça ne marche pas à chaque fois, loin de là, des dizaines de communes ont installé banderoles, affiches et panneaux. C'est le cas, par exemple, à Touette sur Var, dans les Alpes-Maritimes, ou à Najac, en Aveyron. Je vous lis un message qui résume tout, Jérôme. Patients impatients recherchent médecins. Et rappelons que selon le gouvernement, 6 millions de Français n'avaient pas de médecin traitant en 2024 et 87% du territoire était classé en désert médical. D'ailleurs, ce week-end, Louvigné du désert, 3300 habitants en Ille-et-Vilaine, s'est rebaptisé Louvigné du désert médical. 600 personnes ont manifesté alors que leur centre de santé santé risquent de se retrouver sans médecin à la fin du mois. Leur slogan « Sans médecin, nos campagnes s'éteignent ».
Est-ce que vous avez d'autres exemples de système D comme celui-ci pour attirer les médecins ?
Oui, de système D de bonnes idées. Au printemps, le village de La Crouzette dans le Tarn a décidé d'afficher son avis de recherche sur des semi-remorques de transporteurs locaux
qui ont parcouru la France.
La France, exactement. D'autres collectivités ont organisé ces derniers temps pour des médecins et étudiants des week-ends de séduction avec visites, activités ludiques et dégustations de spécialités. Ça a été le cas, par exemple, à Nevers ou dans le sud de la Creuse. Et parfois, Jérôme, l'imagination va encore plus loin, même si ça date un petit peu. Ainsi, en 2021, Francis Cabrel s'était mobilisé dans une vidéo pour trouver un nouveau docteur pour son village d'Astafort dans le Lot-et-Garonne. Et au Poiré sur Vie en Vendée, des médecins avaient enregistré un clip de rap pour recruter des remplaçants. On les écoute et on se quitte avec eux.
Tu vas faire un tour exercé en Vendée, équipe de choc avec ambiance assurée. Donc si t'as les critères, doc, laisse-nous ton email. Maison de santé, recherche, remplaçant mortel.
Voilà, pour tous ceux qui veulent s'installer au Poiré sur Vie en Vendée. Message passé, merci Cyril Petit du journal Ouest France. En chanson, poursuivons avec Frédéric Pommier. C'est la suite de notre semaine consacrée à Barbara. Frédéric, aujourd'hui nous réécoutons votre entretien avec le chorégraphe Philippe Lafeuille qui choisit un titre extrait du spectacle municipal Lily Passion, créé en 1986 par Barbara. Cette chanson, c'est Lily Mimosa.
Quand j'étais ado, je commençais à danser, j'avais une amie, on dansait ensemble et le soir on allait chez elle et sur des Revox tournait en boucle Barbara et on passait la soirée comme ça à écouter et on partait ailleurs, on la suivait dans ses volutes, sa poésie, sa musique, cette voix-là qui accrochait. Puis après ça a été la découverte scénique surtout, ça, cette créature sur scène très cabotine, qui se levait, qui commençait à faire des petits pas de bourrée, tout le monde scandait. Bah, ce spectacle, à la fin, on faisait de la gymnastique. On était debout, assis, c'était incroyable. Je l'ai vu, Barbara, je crois que la première fois, c'était à Pantin, dans ce fameux chapiteau, où on avait les pieds dans l'eau, et que les gens s'accrochaient rudo, ils voulaient pas qu'elle parte, ça a été la folie. Je pense que c'est là qu'a commencé vraiment ces rendez-vous qu'elle créait avec le public, qui étaient des rendez-vous d'amour, de partage, où on nous rappelait les choses importantes. Comme quelqu'un de la famille qu'on retrouve, et comme elle avait son rock-it-chair, c'est comme une grand-mère qu'on va voir, et qui nous donne des conseils sur la vie, qui nous fait du bien, qui nous dit les choses vraiment, parce qu'elle parlait de la mort, de la dépression. Mais il y avait toujours l'espoir. Et à la fin, il y avait toujours la lumière.
Il y a si peu de temps entre vivre et mourir qu'il faudrait bien pourtant t'arrêter de courir. Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, et si l'on s'était trouvé, qu'il ne soit pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, stopperais-tu ta vie pour pouvoir vivre avec moi sur ton île au Mimosa.
Il y a si peu de temps entre vivre et mourir qu'il faudrait bien pourtant s'arrêter de courir. Ben voilà, c'est quelques mots mais qui disent tellement de choses. Oui, c'est comme un mantra, quelque chose qui résonne et qui nous maintient en vie aussi. Et de temps en temps, ça revient, ça remonte. Il y a si peu de temps, n'oublie pas.
Vous avez toute sa discographie. Est-ce que vous savez pour quelle raison cette chanson-là, en particulier, a une telle importance pour vous ?
Oh, c'est difficile à expliquer pourquoi celle-là, elle colle à l'âme et au cerveau. Je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, c'est celle-là, si on me dit Barbara, Lily Mimosa. Je sais pas, elle m'a peut-être aidé aussi à un moment. C'est vrai que moi, j'ai perdu quelqu'un d'un cancer et cette chanson m'a aidé aussi à continuer. Voilà, on s'accroche à ce qu'on peut dans des moments difficiles. Il y a des rencontres comme ça. C'est une rencontre avec une chanson et on est en adéquation et je pense que c'est les petits outils qu'on se choisit aussi pour pouvoir continuer, parce que la vie est quand même une bataille.
Nous aurions la fierté, les tours de cathédrale, et nous serions plus près du ciel et des étoiles. Nous saurions le secret des aurores boréales. Il y a si peu de temps entre vivre et mourir.
C'est une chanson qui dit ça se passe maintenant. La vie, elle se passe aujourd'hui.
Bah, il faut saisir les instants. Tout peut s'arrêter demain. Donc il faut profiter à 100%.
C'est ce que vous faites ?
C'est ce que je fais.
Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards.
Elle ressemble à quoi, cette île aux mimosas ?
Ah, je pense que c'est une île d'amour. Je pense que l'amour est une île. On se réfugie à deux. Je pense que c'est une île où il fait doux, où on est bien, où on vit cet amour. Je pense que c'est un endroit où on a envie de s'arrêter. Et on prend la main de l'autre et voilà. On laisse venir. Moi, je suis amoureux de l'amour, ça je peux le dire. Et ça facilite la vie, ça aide.
L'amour et la chanson de Barbara.
L'amour et la chanson de Barbara. Les mimosas.
Je voudrais vivre avec toi sur ton île aux mimosas.
Barbara, c'était donc le choix du chorégraphe Philippe Lafeuille au micro de Frédéric Pommier.